Sunderlight Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Bonjour Camille.
Salut Arnaud.
Comment tu vas ?
Ben ça va super, et toi ?
Eh bien écoute, ça va, je profite de ces moments de vacances. On a beaucoup discuté sur les précédents épisode que l'on a fait ensemble d'ultra, l'alimentation dans l'ultra distance. Là, on va parler d'ultra équilibre. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour des bons conseils que tu vas nous donner au travers de cet épisode ?
Ouais, c'est vrai que c'est un thème qui est revenu quand on vous a demandé quel sujet vous aimeriez qu'on traite dans la capsule santé. C'est un peu comment trouver l'équilibre pour ne pas faire que l'ultra prenne trop de place dans sa vie au détriment du reste, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de gérer la vie quotidienne, le travail et les entraînements quand on prépare une épreuve d'ultra.
C'est peut-être le plus difficile, en tout cas plus difficile que l'épreuve ultra en elle-même. C'est comment trouver ce bon équilibre familial, professionnel, personnel, alimentaire, parce qu'il y a ça aussi, hein, quand tu manques de temps, forcément tu prends moins de temps pour la manière dont tu vas t'alimenter, qui vont avoir des conséquences sur... Enfin, c'est un cercle vicieux, on tourne en rond. Donc, toutes ces questions-là sont très, très importantes et ça prend du temps pour mettre en place les bonnes habitudes, les bonnes routines. Et ça nécessite souvent beaucoup d'expérience ou en tout cas de partage d'expérience.
Ouais, je pense que la première question à se poser quand on est dans cette volonté de se lancer dans l'ultra ou de faire une épreuve en particulier, c'est commencer par le pourquoi. Quels objectifs et pourquoi ? C'est essentiel avant de se lancer dans la préparation d'une épreuve parce que déjà, on répond tous à différents déclencheurs. Il y a bien sûr le besoin d'accomplissement et de défi, hein, c'est le top de la pyramide de Maslow. Quand tout le reste est bon, c'est vrai qu'on a ce besoin hein, de réaliser des défis. Il y a aussi ce côté un peu validation sociale, si d'autres le font, c'est que ça doit être super, donc moi aussi je vais le faire, comme ça les autres vont me valider. C'est bête, mais ça existe aussi, et les réseaux sociaux et Strava nous poussent quand même un peu aussi là-dedans. Il y a des raisons plus nobles aussi, hein. Il y a vraiment cette envie de montrer l'exemple à ses enfants, à ses proches, leur montrer ce qu'on peut accomplir quand on s'en donne les moyens. C'est vraiment très puissant en ultra. Et puis, il y a autre chose aussi, il y a aussi se dire, je veux sortir de mon quotidien, je veux vivre quelque chose d'ultra ordinaire, comme tu le dis souvent, je veux vivre cette aventure. Donc voilà, moi je pense à ça. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses qui peuvent déclencher l'envie de faire de l'ultra comme ça ?
Alors, je pense qu'en fait, ce thème-là est super, super intéressant. Et en fait, la réponse au pourquoi, moi, j'en ai parlé beaucoup dans mes conférences et dans mes interventions, c'est le point de départ. Et si tu n'as pas la réponse à cette question et que tu veux faire de l'ultra, je dirais presque que tu es mal barré. Ouais. Parce que le pourquoi va arriver. Il va arriver dans l'épreuve. Il va arriver à un moment donné parce que il fait chaud, parce que t'as soif, parce que t'as mal aux pieds, parce que t'as sommeil, parce qu'il fait nuit, t'as froid et il y a personne autour de toi et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là je serais mieux chez moi devant ma télé en train de regarder une série Netflix confortablement sous ma couette avec un thé. Enfin, à un moment donné, ça va être là. Le pourquoi va arriver parce que l'ultra, si c'était sans douleur, il n'y aurait pas autant d'envie d'y revenir quelque part. Tu vois ce que je veux dire ? Tellement tu as eu de satisfaction à être passé au-dessus de ces douleurs-là. Donc le pourquoi, il faut que tu aies les réponses. Et je dis les réponses au pluriel parce que je l'avais expliqué dans un épisode de la capsule ultra que j'avais faite sur le podcast. C'est que moi, ce que je conseille, c'est de préparer cette liste des pourquoi. Et bien avant l'épreuve, pas la semaine d'avant. Mais de te faire une sur ton carnet, on a tous un petit carnet de notes, c'est de te faire une liste des pourquoi il est important pour moi de terminer cette épreuve. Et au début, moi je sais que la première fois que je l'ai fait, au bout d'une semaine, j'avais trois réponses. Et puis au fur et à mesure, si tu creuses, tu vas remplir plus d'une feuille. Et donc il y a plein de raisons tu auras en tout cas plein de raisons de terminer cette épreuve. Et il faut juste avoir cette, euh, cette liste-là en tête, donc tu peux la mettre sur ton smartphone, ce qui veut dire qu'elle sera facilement consultable sur ton vélo dans les moments difficiles. Tu prends 5 minutes, tu t'arrêtes, tu relis cette liste, tu te mets la playlist que tu as préparée qui va bien, et je peux te dire que tu repars. Tu repars. Mais c'est important, et surtout le pourquoi, en tout cas pour moi, ce que tu me poses la question, il a évolué depuis les 10 ans où je m'intéresse au cyclisme ultra-distance et depuis 2013 où je pratique le cyclisme ultra-distance. Au début, ça a été, je pense, peut-être montrer l'exemple, ça a été les trois premiers points que tu as abordés. Tu vois, montrer l'exemple, validation sociale et besoin d'accomplissement. Puisqu'au moment où j'ai commencé l'ultra, pour moi, dans ma vie personnelle, j'étais redescendu en dessous du niveau du plancher, tu vois. J'étais tout en bas, voire en dessous en dessous de ce que tu peux imaginer. Et l'ultra à distance m'a relancé, moi, dans ma vie personnelle et professionnelle. Et je pensais même qu'une épreuve d'ultra allait être un aboutissement. Et en fait, quand j'ai mis le pied dedans, ça a été une vraie révélation et ça a été un vrai carrefour de vie. Et plus rien derrière n'a été comme avant, et si j'avais pas fait d'ultra, ma vie serait totalement, totalement différente, certainement beaucoup moins saine, parce que je pense que quand il y a de l'ultra, ça apporte beaucoup de bénéfices à ta vie, et donc à ta famille, puisque tu fais attention comment tu t'entraînes, donc tu es en meilleure santé, tu fais attention comment tu t'alimentes, donc tu as une meilleure hygiène de vie, et je pense que l'ultra, quand tu prépares une course d'ultra, tu la prépares un an, moi je le vois bien sur la Race Across France, au moins un an à l'avance, donc pendant un an, tu as la garantie quelque part, d'avoir une vie saine, parce que tu vas faire du sport plusieurs heures par semaine et tu vas bien t'alimenter. Donc, ça a un vrai impact. Et aujourd'hui, je pratique l'ultra pour plus l'évasion, le partage et les rencontres. Il n'y a plus, comme ça avait été le cas au début, de notion de performance. C'est surtout la notion de rouler, poser mes roues dans des endroits de dingue et partager ça. Donc, soit avec des gens qui habitent proches de là où j'évolue, mais sur ma dernière aventure en Laponie, il n'y avait pas tellement de monde. Donc là, c'était de partager via des photos, des lives et un documentaire. Donc je pense que tu as bien, bien décrit les différentes phases et elles peuvent évoluer au fil du temps. Mais le pourquoi, très clairement, il faut vous y pencher et avoir les réponses.
Ouais, complètement. Et je pense qu'aussi, il faut se fixer, un objectif qui est lié à l'épreuve qu'on va décider de faire. Parce qu'en fait, et je pense que tu le vois, hein, il y a différentes typologies de participants et de participantes sur les épreuves d'ultra. Il y a ceux qui veulent le faire pour voir, par curiosité. Il y a ceux qui vont juste dans le but de finir. Et il y a ceux qui viennent vraiment jouer un chrono, un podium, etc. Et en fait, c'est important aussi de l'avoir en tête pour ne pas se retrouver déçu alors qu'on vient d'accomplir un truc incroyable. Et voilà, et pas se dire... si à la base, l'objectif n'est pas de faire un chrono, si à la base, l'objectif, c'est de finir et que, je sais pas, tu fais pas un top 3 ou un top 5 et qu'après, tu te dis « Ah oui, mais en fait, j'aurais pu... » Peut-être que tu aurais pu, puis peut-être pas. Et au final, c'est pas la question parce que c'est pas l'objectif. Et c'est important, je pense, d'être assez clair là-dessus aussi au départ de l'épreuve. Et ça va même conditionner la prépa aussi parce qu'on n'aborde pas du tout une épreuve de la même façon si on l'aborde en mode découverte ou en mode compétition. Donc, c'est important de le savoir. Ça permettra de mettre, de mettre la pression aux bons endroits tout au long de l'année et ouais, pas de se stresser pour rien ou d'être déçu à la fin de l'épreuve alors que finalement, on l'a fini et que l'objectif qu'on s'était fixé au début, il était clair, quoi. Donc, moi, ouais, je pense que...
C'est vrai, quand tu es au départ d'une épreuve pour la finir et au départ d'une épreuve pour performer, tu aborderas pas du tout les temps de pause, les arrêts, la stratégie de la même manière. Et tu sais, on me pose souvent la question, j'ai souvent la question, mais Arnaud, quelle épreuve tu me conseilles pour préparer la Race Across France ? Ben, pour moi, la meilleure épreuve pour préparer la Race Across France, c'est la Race Across France. C'est-à-dire que quand tu l'as fait une seconde fois, tu as optimisé, tu connais. C'est comme pour moi les États-Unis. Je ne l'aurais pas fait en 2013, je n'aurais jamais, très certainement, je n'aurais jamais fini en 2015. Mais de l'avoir fait en 2013, j'ai compris les codes. Je connaissais le parcours, je connaissais l'exigence. Donc, ça veut dire que ça a eu un impact sur la difficulté de mes entraînements qu'on suivit, où je me suis fait zéro cadeau parce que je savais que j'allais me dire merci à moi-même, que j'allais me remercier pendant l'épreuve. Donc, je pense que la meilleure manière de préparer une épreuve d'ultra-distance, c'est de faire l'épreuve d'ultra-distance. Et en ultra, la prise d'expérience, c'est le meilleur atout. C'est-à-dire, venir sur une épreuve d'ultra pour la première fois sans en avoir fait et se dire « je vais performer », là, je dis « attention, ouais. Il va y avoir beaucoup de surprises ».
C'est sûr. Et je pense que même voilà, dans l'ultra, moi, j'ai toujours ça en tête, mais je pense que c'est en t'écoutant aussi que je l'ai appris. C'est que je me suis dit « ça peut arriver d'être DNF ». Donc de do not finish, hein, d'abandonner Exactement. En cours d'épreuve. Et ça, je sais que ça peut m'arriver. C'est probable que ça m'arrive prochainement parce que j'essaye chaque année de faire des trucs un peu plus durs. Donc il y a un moment où ça va coincer. Et en fait, je me dis, parce qu'on me dit souvent, ah mais tu vas faire ça, mais c'est vachement dur et tout. Je fais, mais écoute, j'essaye. Si ça passe cette année, c'est cool. Si ça passe pas, bah je peux réessayer l'an prochain. Et en fait, je me dis que même des fois, se lancer dans des chantiers, moi honnêtement, bah des fois je me fixe des objectifs. Je me dis, bon, bah, j'ai pris un dossard, j'y vais, on verra. Et je me dis, si je finis, c'est génial. Et même si je finis pas, je vais quand même vivre un truc incroyable. Et je veux pas considérer ça comme un échec. Je veux toujours considérer ça comme un apprentissage.
Tu sais, un DNF dans une épreuve d'ultra, c'est la réussite de l'épreuve suivante.
Bah, c'est exactement ça, ouais.
Moi, mon plus bel échec à la Race Across Italy, dont on a parlé dans un épisode précédent, où ça a été une très très grosse déception pour moi, puisque c'était très grisant d'être en tête, mais vraiment quand tu sais que tu ouvres la route d'une course de cyclisme ultra-distance, qui est une épreuve Coupe du Monde, où tu prépares en plus les États-Unis l'année d'après, je validais des choses. Et 6 heures plus tard, j'étais sur le bord de la route, allongé, en train de laisser mon corps évacuer une hyperglycémie qui te conduit derrière un abandon. J'ai pas touché mon vélo pendant 15 jours en me disant, bon, Arnaud, est-ce que t'es vraiment fait pour ça, en fait? Parce que, voilà, ça fait 2 fois que tu fais ça en 12 mois. Peut-être que t'as un problème avec le sucre, t'as peut-être du diabète, t'as peut-être... Enfin, je me suis posé, mais des tas de questions. Et en fait, je me suis rendu compte, en discutant avec mes assistants, que quand tu es avec assistance, et on parle souvent d'alimentation, moi, je suis très, très strict sur l'alimentation. C'est-à-dire que quand j'avais mon assistance, il savait précisément presque à quel kilomètre il devait me donner tel aliment. Tout était prêt avec des codes couleurs. Enfin, tout était les protéines, les lipides, les glucides, tel moment de la journée. Tout était prêt. Et il se trouve que là, j'avais fait l'erreur de penser que 2 assistants dans mon assistance étaient suffisants, alors que non, ils étaient fatigués. Entre un qui conduisait, l'autre qui devait suivre le GPS, me donner à manger, me donner à boire, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Et donc, le plan d'alimentation, alors qu'ils ne l'ont pas dit pendant, hein, mais n'était pas du tout respecté. Et donc, cette erreur-là d'organisation, je devais m'en prendre qu'à moi-même, m'a conduit à l'abandon. Mais ça m'a totalement fait remettre à plat mon organisation pour l'année suivante. Puisque là, en l'occurrence, ce n'était pas mes capacités physiques qui ont péché, mais c'était l'organisation, la logistique que j'avais mis en place à côté qui m'ont pénalisé. Directement, qui ont conduit à cet abandon. Donc, il ne fallait pas que je pense que je n'étais pas capable. Ça a pris du temps, mais cette erreur-là, sans ça, je ne finissais pas les États-Unis l'année d'après. C'était très clair. Donc, un échec dans une épreuve d'ultra-distance, c'est plusieurs réussites derrière, personnelles ou professionnelles d'ailleurs.
Je pense que c'est hyper bien de l'aborder comme ça, et ça doit aussi, voilà, dans ce truc d'ultra-équilibre, bah, se dire que l'échec, de toute façon, fait partie de la vie, fait partie de l'apprentissage, et voilà, de ne pas se mettre une pression de malade sur ce sujet-là. On contrôle tellement peu de choses, en plus, en ultra.
Mais je crois qu'il y a un podcast, tu sais, il y a un podcast qui existe, je crois que c'est La Leçon, ça s'appelle.
Oui, c'est mon amie Pauline Grisoni qui l'anime d'ailleurs.
Mais je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial. Enfin, je veux dire, un podcast fait sur l'échec, c'est extraordinaire. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Enfin, on met un mot sur quelque chose que tu n'as pas terminé, peut-être, mais
c'est ce que tu en fais aussi. Hein,
c'est une future... Enfin, je veux dire, un échec, c'est une réussite à venir, quoi, très clairement.
Ouais.
Très clairement.
Moi, je trouve que c'est bien, et ça vient rejoindre le deuxième sujet, c'est que quand on prépare on prépare une épreuve d'ultra, une fois qu'on sait pourquoi, comment, et qu'on essaye de se dire, bah, quoi qu'il arrive, ça va être riche d'apprentissage. L'autre chose hyper importante, c'est de bien s'entourer en fait autour de ce projet-là et d'être sûr que c'est aligné avec ce que nos proches attendent un peu de nous et vont vivre. Parce qu'en fait, quand on fait de l'ultra, enfin, il faut vraiment que tout le monde soit OK avec ça, quoi. Sinon, moi, je vois même pas comment c'est possible.
En fait, ça, c'est on parlait du pourquoi. Il y a une chose qui a validé, c'est ça. C'est si tu pars dans une épreuve, alors déjà, si ta préparation, dans ta préparation, la famille n'a pas validé ce projet-là, c'est compliqué. Ta prépa, elle va être compliquée. Mais le départ aussi, parce que là, tu vas être isolé. Tu vas être isolé, ouais, sur ton vélo, tout seul, tu ne vas pas les voir. Ils vont te manquer, tu vas te poser des questions, mais en fait, ils n'ont pas validé ce que tu faisais, mais tu culpabilises. Ça, c'est une catastrophe. Et dans l'épisode sur le podcast Ultra Talk que j'ai fait avec Thomas Coville, on aborde ce sujet-là. Où moi, j'ai souffert de ça quand j'ai fait le Tour de France randonneur l'année passée. Alors, je n'ai pas souffert du fait qu'on ne se soit pas mis d'accord avec ma compagne, ça, tout était clair, mais j'ai souffert du manque des enfants. Où j'étais parti 3 semaines, alors ce n'est pas comme Thomas Coville, 6 mois, tu vois, j'étais parti 3 semaines, mais quand même, 3 semaines, j'étais en France, et les enfants n'ont pas compris, en fait. Et je n'étais pas prêt, puisque rapidement, au bout de 10 jours, 12 jours, donc on était à peine à mi-parcours, je savais qu'il y a quelque chose qui allait pas, tu vois. J'étais, ouais, accompagné de Jeanlin qui était avec moi, et je lui disais tous les matins, oh là là, les enfants, et les enfants se posaient des questions, ne comprenaient pas pourquoi j'étais parti comme ça, pourquoi je ne revenais pas, allant jusqu'à poser des questions à ma compagne en disant, mais avec papa vous êtes plus amoureux,
oh non.
Ouais, vraiment, ouais, vraiment, ils se sont ça les a vraiment marqué, ça les a vraiment marqué. Et ça, je pense que quand tu te lances dans l'ultra, même si tu es tout seul, et ça, je ne supporte pas les gens qui pensent que les cyclistes sont des solitaires. Je comprends pas qu'on puisse penser ça, parce que c'est tout l'inverse. Même si tu es tout seul sur ton vélo, ce projet-là, tu emmènes toute une famille avec toi. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il faut que toute la famille bénéficie de ce que tu vas vivre. Il faut pas le garder pour toi, ouais, ce que tu vas vivre. Il faut le partager. Ouais. Il faut le partager, et ça devient un projet familial. Et à partir de ce moment-là, si tout est validé, si tout est aligné, tu seras dans ta tête beaucoup plus libéré pour être performant.
Terriblement, terriblement. Et puis il y a qu'à voir. C'est vrai, quand tu dis c'est pas un truc de solitaire. Et je pense qu'il y a qu'à être une fois sur un départ d'Ironman à Nice, ou d'être au départ de la RAF. La plupart des gens sont là avec soit leur famille, soit leur compagnon, soit leur compagne, soit leur pote. Mais c'est pas un truc individuel, en fait. Et c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur comme sport pour que ce soit un truc individuel. Il faut qu'il y ait du monde autour de toi. Et ça change complètement la phase de ton épreuve quand tu la vis, quoi. Moi, ouais, je sais que, enfin voilà. Après, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui fait l'ultra aussi, qui a fait la French Divide et tout. Donc moi, j'avais déjà vécu le côté dot watching de la maison, à le regarder faire, et c'est lui qui m'a inspiré aussi, hein, et qui m'a dit que c'était possible, et où du coup je me suis dit, bon bah moi aussi je vais essayer. Et enfin, Dieu merci, il est là même encore aujourd'hui au quotidien, parce que il comprend que des fois je rentre du taf, qu'il est 20h et puis que j'ai encore une heure de home trainer à caler et qu'on mangera pas avant 9h30. Et en fait, il pose pas la question, ou que ce week-end il y a 7 heures de vélo à faire, est-ce que tu veux venir avec moi, ou alors on se prend pas la tête quand je rentre, parce que du coup on n'a pas fait le ménage, ou x ou y truc, parce qu'en fait on est aligné là-dessus. Mais c'est super important, parce que en fait, si on est entouré que de gens qui nous disent mais t'es fou, t'es folle de faire ça, ça va pas le faire, si même dans les potes, hein, y a des gens qui sont pas encourageants et qui sont toujours en train de dire mais tu te rends compte, c'est super super dur de vivre avec ce poids là parce que la responsabilité quand on prépare un ultra, elle est déjà lourde à porter, parce qu'il y a plein plein de trucs à gérer. Et si en plus on sent qu'autour de soi il y a des doutes, ça va être source d'engueulade, ça va être source de tension. Honnêtement, on se crée des complexités. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut pas prendre de dossard en scred et dire au fait je pars pendant 10 jours faire 2500 km cet été. Parce que, ou alors si on veut divorcer, ça c'est peut-être une bonne solution.
mais tu vois, sinon... quand tu parles de la famille, moi ça m'a donné des frissons, puisque aux arrivées de la Race Cross France, que ce soit le 300 ou le 2500, il y a des familles qui viennent. Donc c'était mieux une arrivée, je vais te faire une image, mais l'arrivée du 2500 km au Touquet à 3h30 du matin, t'as personne. T'as personne qui est là. Il fait nuit noire, t'as un vent de malade, il fait plutôt frais, et ta personne est là. Tu sais que tu vois le GPS, donc tu sais que ton coureur est à peu près 5 km de ligne d'arrivée, donc tu l'attends avec émotion, tu sais qu'il va arriver marqué, fatigué. Et là, tu vois 2-3 personnes qui arrivent et qui sont en fait des membres de la famille. Ça peut être l'époux, l'épouse, les enfants, les fils... Ça nous est arrivé, les frères, et généralement, c'est une surprise. C'est-à-dire que quand le coureur s'était lancé au départ à Mandelieu plusieurs jours plus tôt, il ne sait pas que sa famille l'attend au départ, à l'arrivée, pardon. Mais sa famille l'a suivi, a vu son GPS se déplacer à travers toute la France pendant plusieurs jours, et se dit « Ah, je me dois d'être là, je me dois d'aller l'accueillir pour lui dire bravo de ce qu'il vient d'accomplir. » Tu vois ce que je veux dire ? Je ne parle pas de performance. Je parle juste de, il a traversé la France en vélo, en traversant les Alpes, le Ventoux, les plaines, la Normandie, enfin des paysages de dingue. Et c'est juste venir attendre la personne que l'on aime, juste pour lui dire bravo en fait. Bravo, et pour c'est une vraie reconnaissance. Et on voit à chaque fois des scènes tous les ans qui nous, en termes dans l'organisation, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions pour nous aussi. Moi, j'ai déjà versé des larmes en voyant un coureur arriver et sa famille l'attendre, notamment un Allemand qui était là l'année passée, qui revient d'ailleurs pour la 4e fois cette année, son que meilleur, qui l'année passée, sa famille lui a fait la surprise, est venu d'Allemagne sans lui dire. Et il était tellement fatigué que quand il a franchi la ligne, il ne les a pas vus. Il ne les a pas vus, puis après, il voit un groupe de 3 personnes qui l'appellent, tu sais, puis... On voyait dans son regard, en fait, qu'il n'arrivait pas à discerner, en fait. Donc, il nous regardait, il les regardait en disant « Mais c'est pas possible, ma famille est en Allemagne, elle n'est pas là. » On voyait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Et quand il a réalisé, alors là, c'était les sanglots, quoi. Mais on vit toujours des moments extraordinaires. Et la famille est très, très importante pour la réussite d'un projet.
C'est sûr et certain, et c'est vraiment et ouais, je pense en fait ça fait partie de l'épreuve, vivre ce truc à la fin avec ta famille, avec tes amis. C'est pas seulement quelque chose, et je pense qu'on en revient au pourquoi, mais c'est pas seulement un truc que tu fais pour toi-même, c'est aussi pour les gens qui t'entourent. Ah ben, quelque part,
mais non, donc, si tu le fais pour toi-même, t'abandonnes.
Mais
c'est clairement. Beaucoup trop dur.
Oh, mais c'est beaucoup trop dur, on est d'accord. Hein. Alors là.
C'est beaucoup trop difficile. Et c'est pour ça que le lâcher prise intervient. Ouais. C'est que à compter du moment où tu lâches prise, tu le fais plus pour toi. Tu le fais pour les autres, en te disant bon allez, de toute façon, j'ai mal, mes pieds ils sont morts, voilà, mon genou c'est pareil, j'ai des douleurs à la selle de malade, mais bon, c'est comme ça, il faut finir. Et tu le fais plus pour toi. En tout cas, je reviens sur de l'expérience personnelle. C'est notamment aux États-Unis, moi au bout de 3 jours j'ai vite compris que je le faisais plus pour moi, hein.
Ouais.
Ça a été un vrai moteur d'ailleurs, sinon j'aurais arrêté, c'était trop douloureux.
Ouais. Après là du coup on a pas mal balayé des sujets qui sont quand même très de psycho, hein, de psychologie pure, et vraiment de cellules familiales. Après Il y a un troisième truc, je pense, dans ce qu'on a appelé l'ultra-équilibre aujourd'hui, c'est l'organisation, en fait. Hein. C'est savoir bien gérer son temps, parce que les semaines vont se retrouver amputées avec les entraînements d'un capital temps qui va être non négociable si on veut y arriver. Donc voilà, il y a pas mal d'outils de préparation, mais ça demande quand même, je pense, une bonne discipline. Personnel, si on veut y arriver, quoi.
Sauf si tu ne fais que ça, ce qui est quand même rare. On a tous un job à côté. Il faut que tu aies une organisation, j'irais presque au mois. C'est-à-dire qu'en début de mois, tu puisses avoir une vision sur la quatrième semaine, ce que tu vas faire, quand est-ce que tu vas le faire dans ta journée, à quel moment. Et ça te permet aussi d'avoir une charge mentale moins importante, de te libérer quand même un peu d'esprit.
De te décharger là-dessus. Ouais.
D'avoir une organisation qui soit quand même bien calée. De savoir si jamais tu as des séances, tu sais, où tu vas souffrir physiquement et mentalement, de te préparer à te dire, bon, tiens, cette semaine, j'ai deux grosses sorties à faire, ou des intensités à faire, donc une charge mentale plus importante, donc de te préparer aussi à ça. Donc plus c'est anticipé, plus c'est organisé, mieux c'est dans ta préparation.
Ouais. Moi, je sais que tu vois, sur le sujet de l'entraînement, je fais le choix de bosser avec une coach parce que j'ai pas le temps du tout de gérer ma prépa et qu'en plus, j'ai aucune compétence en physiologie du sportif. Et d'autre part, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui regarde un peu mes séances et qui me les débriefe pour me dire c'est bien, c'est pas bien. Sinon, je sais pas où je vais. Et puis en plus, quand il y a des séances trop dures, moi, j'avoue, j'ai un peu besoin qu'on me mette le pied à l'étrier. Donc voilà. Après, moi, je sais que j'ai un plan d'entraînement qui est dispo dans un logiciel. J'ai le plan d'entraînement pour le mois. Je lui débriefe tout au fur et à mesure dans les commentaires. Elle me répond. On a juste si besoin. Hein. C'est pas gravé dans la roche. Mais en tout cas, pour moi, c'est efficace, c'est sécurisant. Et comme ça, je regarde en début d'année, je fais mon planning de course, je pose déjà mes congés et j'ai plus jamais à y penser. Donc justement, ça me libère de l'espace de charge mentale. Et puis voilà, moi je me connais aussi, je connais ma boussole interne, donc je fais attention à pas en faire trop, à pas me surentraîner. Et après, ça c'est personnel. Hein, j'évite de trop regarder aussi ce que font les autres, y compris mes copines. Et mes copains qui font de l'ultra, hein, mais j'évite de trop regarder Strava, j'évite de trop regarder les gens qui sur Insta ne postent que des trucs d'entraînement, etc. Parce qu'en fait, après, moi, j'ai l'impression de jamais m'entraîner assez. Et je sais que moi, ma prio dans la vie, c'est le vélo est une des priorités, mais c'est pas la priorité. Il y a mon travail, il y a ma famille. Donc, avant tout ça, je me dis, quand je prends une décision qui a trait à l'ultra, je me dis, est-ce que c'est bien en accord avec mes priorités profondes? Est-ce que je ne vais pas pénaliser une autre partie de ma vie? Et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment très grave ou non, quoi?
C'est ça qui est important. C'est surtout, tu vois, et c'est intéressant ce que tu dis, c'est de ne pas se comparer. Parce que ça aussi, c'est une erreur. Tu sais, tu parlais de comparer tes entraînements.
Ouais.
Et je pense qu'il faut rester concentré dans sa bulle et être le plus en accord possible avec soi-même. C'est-à-dire être au départ d'une épreuve en se disant, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai fait le maximum pour être au mieux de ma forme. J'aurais pas pu faire plus, j'ai pas fait moins, j'ai fait le maximum, et d'être au départ en se disant, ne pas avoir de regrets. Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ça, c'est terrible de partir dans une épreuve comme ça. Il faut être au départ en disant, voilà, je suis prêt, j'ai fait le maximum, maintenant, c'est que du plaisir. Et quand tu t'élances, ne pas essayer de suivre celui qui est devant ou d'accélérer pour celui qui est derrière ne te rattrape pas.
Ouais.
Ça aussi, c'est une erreur que font beaucoup. Et dans une épreuve d'ultra, il faut rester concentré sur tes sensations. Puisque sinon, tu vas te mettre dans un faux rythme et tu vas exploser dans la durée et dans la distance. Donc, c'est vraiment de ne pas se comparer aux autres et d'être vraiment en accord avec soi-même sur sa préparation et surtout sur son évolution dans l'épreuve, très clairement.
Carrément.
Et comment tu gères, Camille, toi, parce que ça procure du stress, hein, on en a parlé sur un épisode précédent, la race Cross France, tu disais j'y vais mais j'ai peur, c'est l'expression qui revient beaucoup. Comment tu gères le stress avant, pendant une épreuve, et surtout avant généralement?
Moi, ce qui m'aide pas mal, c'est, on en a parlé plein de fois, mais c'est vrai que toi comme moi, on aime bien tout ce qui est journal, donc moi j'ai quand même un petit carnet qui m'accompagne tout au long de l'année et où je me note mes objectifs. Tu vois, j'en reviens souvent quand c'est vraiment dur ou quand je dois aller faire, tu vois, des séances qui sont très dures et du coup je stresse, ou quand il fait pas beau et tout, en fait j'ai mon petit carnet et je me dis je sais pourquoi j'y vais, et mine de rien ça m'aide à gérer mon stress aussi, de me dire c'est en fait plus je vais galérer limite à l'entraînement, plus le jour de la RAF ça va être merveilleux pour moi, quoi.
Et ça, c'est important d'avoir ces routines aussi, hein, de se connaître sur ça, ce dont on a besoin pour être un peu plus calme d'esprit.
Ouais, et ça c'est vrai que moi, journaler, noter ça, et puis globalement m'en servir même comme outil de tous les jours, hein, pour me noter tout ce que j'ai à faire sur mes vélos, pas oublier, parce que ça fait partie de la prépa, ou de recommander la bouffe, etc. Ça m'aide un peu, c'est pas des pensées parasites que j'ai tout le temps, je sais quand je le fais, et voilà, comme ça se règle assez vite. Après, moi, ça fait des années que je médite pas forcément tous les jours, mais en tout cas j'essaye 2-3 fois par semaine, avec l'app Headspace qui est dispo en français, en anglais et tout, qui est vraiment super bien faite. Donc, je travaille là-dessus aussi. Il y a des cycles de méditation entiers, justement, sur la performance sportive, sur la peur de l'échec, sur toutes ces choses-là. Donc, on peut choisir des méditations entières sur ces sujets-là. Et c'est vrai que, enfin, moi, ça m'aide énormément. Hein. Je vois la différence, même quand je suis au bout du stress. Méditer, ça m'aide. Et sur le vélo, quand c'est dur, bah, méditer, ça m'aide aussi énormément. Donc ça c'est, enfin après c'est un tout autre sujet que je pense on peut y consacrer un épisode entier. Mais la méditation c'est une pratique qui change fondamentalement tout dans la vie quoi. Donc ça c'est hyper bien. Et il y a un dernier truc qui m'a vachement aidée avant la RAF, c'est qu'en fait j'ai lu les Pensées de Marc Aurèle l'an dernier un peu avant l'épreuve et c'est plein d'enseignements. C'est du stoïcisme hein, donc ça t'aide vraiment à prendre de la hauteur sur ce que tu fais, au fond, bah, c'est bien, mais c'est pas important.
Exactement, tout à fait.
Et du coup, je suis partie un peu dans ce mode en me disant, bah, c'est super, je prépare ça, j'attends d'être là depuis tellement longtemps, mais c'est pas très... Si on regarde la grande image de la vie, ça a vraiment pas d'importance, en fait, ce que je suis en train de faire. Donc, il faut juste que je prenne plaisir à le faire. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça... J'ai plutôt ces trois trucs-là où je sais que c'est mon pack anti-stress, quoi.
Ouais, complètement.
Toi, t'as des astuces, tu utilises des trucs comme ça ?
Alors moi, dans la gestion du stress au quotidien, j'écris. Hein. J'écris, sinon j'oublie, très clairement. J'ai tellement de pensées, j'ai tellement d'idées et de pensées qu'il m'est arrivé d'aller faire des... Alors moi, mes séances d'entraînement sont souvent un moment où je génère énormément d'idées. Que ça soit sur la Race Across France, mais aussi sur les podcasts, sur le Café Grimpeur à Lyon. Enfin, beaucoup de projets, notamment la Race Across France, sont nés pendant un entraînement. Voilà. Donc, je m'arrête, en fait, maintenant, et je note. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, quelquefois, je peux m'arrêter 10 fois, et dans mes notes sur mon téléphone, je mets l'idée, en fait. Je note l'idée, et comme ça, après, au plus au calme, je peux la relire et la développer, mais il m'est arrivé de revenir d'un entraînement et de ne pas m'être arrêté, de me dire, putain, j'avais une super idée, là, je l'ai oubliée. Tu vois? Donc moi je note beaucoup avec des to-do list, voilà, du brainwashing, des choses comme ça, je fonctionne sur ça. Après pendant l'épreuve, alors avant je lis également beaucoup, mais un peu le même style que toi, hein, c'est-à-dire je m'inspire beaucoup de la vie de la vie des autres, c'est-à-dire de gens qui m'inspirent, que ce soit, tu vois, j'ai terminé dernièrement le livre, je sais plus son nom c'est L'Encrenon. Qui a écrit, qui est une grande photographe en fait, mais qui explique son parcours de vie et ce qui l'a amené à faire de la photo et photographier des stars. J'aime ces histoires-là en fait, de gens qui racontent ces carrefours de vie, ces décisions et quels ont été les déclencheurs ou les coups de pouce du destin qui font que, voilà, aujourd'hui, leur métier, c'est leur passion. J'aime ça. Je m'inspire de ça en fait. Et pendant, c'est de la musique. Moi, j'ai toujours une musique qui a marqué une aventure. Et ça, c'est les musiques que je suis capable d'écouter en boucle pendant 12 heures, hein, tu vois. Mais c'est un moment qui va me porter, en fait. Voilà, c'est ces moments-là, généralement, qui peuvent déclencher aussi ces phases de flow, tu vois, dont on parle. Et j'ai même une petite anecdote sur ça. C'est quand j'ai des interventions à faire en entreprise ou des séminaires ou des conventions, il m'est arrivé de prendre la parole devant 700, 1000, 1200 personnes. Pour moi, qui c'est pas du tout mon truc, il y a plusieurs années, devant 10 personnes, je faisais un malaise vagal, tu vois. J'écoute une de ces musiques-là, qui ont marqué une de mes aventures, pour me remettre un peu dans ce flow, tu vois, pour me remettre dans ce flow. Mais surtout, ce qui revient, c'est de dire, tu vas parler de quelque chose que tu maîtrises, puisque c'est ton parcours. Donc voilà, les gens dans la salle sont bienveillants, il y a un vrai travail à faire parce que ça reste assez angoissant d'avoir comme ça autant de monde devant soi, mais voilà, et surtout, et là je pense que le point central il est là, c'est de se dire que ce qu'on fait finalement, c'est du sport, tu vois ce que je veux dire, c'est pas si important, c'est peut-être à un moment donné un important dans une vie, mais dans la globalité, il y a des choses bien plus importantes que ce qu'on fait, donc juste enjoy, quoi, très clairement.
Exactement, exactement. Ensuite, pour conclure un peu cet épisode d'Ultra Équilibre, je m'étais mis quelques petites notes sur la récupération, On en avait déjà parlé, on a fait un épisode entier là-dessus, sur la récupération et le sommeil. Mais je pense que pour trouver l'équilibre dans l'ultra, c'est aussi important de vraiment se garder au moins un jour off, voire deux par semaine où il n'y a pas de vélo, où le vélo rentre pas en ligne de compte. Et ça peut être aussi justement l'occasion d'aller manger avec ses potes dehors, de faire autre chose avec son conjoint, ses enfants, enfin voilà, de se libérer aussi ce temps-là. C'est
Et
quand?
tu seras bien plus performant, hein, parce
Clairement.
que tu seras bien mentalement et ton corps aura, tes muscles auront, et on peut dire que le mental peut en être un, tu vois ce que je veux dire, mais tu auras récupéré. Et moi, j'ai fait ces erreurs-là aussi, hein, j'ai fait beaucoup d'erreurs au final, hein, de s'entraîner, de penser que si tu n'entraînes pas 24, 48 heures, tu vas régresser. Alors, tu as des phases de préparation où il faut charger vraiment en heures. Et avoir vraiment une grosse charge de travail, mais ça, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Sinon, tu uses ton corps, tu tombes en surentraînement, et surtout, tes intensités, elles sont plus faibles qu'elles ne pourraient être si tu récupérais. Ton corps a besoin de récupérer. Donc, il faut savoir s'accorder du temps pour soi et sans culpabiliser. Tu sais, la fameuse culpabilité de dire « Oh là là, j'ai raté un entraînement. »
Clairement,
Non,
clairement.
non,
Puis
faut arrêter avec ça.
le jour off, il est pas forcément, c'est pas forcément un jour où on fait la patate de canapé sur Netflix, hein. Ça peut l'être, et
Exactement.
y a aucun stress avec ça, mais ça peut être aussi l'occasion de faire un autre sport. Pas de faire un truc avec de l'intensité, mais ça peut être l'occasion d'aller marcher, de faire du yoga, de tester un truc avec des amis. Enfin, il y a plein plein d'autres sports aussi dans la vie, autres que le vélo, qui sont moins bien, certes, mais qui existent quand même. Et ça peut être aussi cette occasion-là. Moi, je sais que ça me fait du bien aussi d'avoir ces jours off parce que le lendemain, je suis ravie de monter sur mon vélo parce qu'on a eu un petit peu le temps de se manquer. Et du coup, je sais que quand j'enchaîne non-stop sur toute la semaine, il y a un moment où, franchement, ma selle, je ne peux plus la voir en peinture,
Ouais.
quoi. Je suis là.
Ça, c'est une astuce aussi. Tu vois, dans l'ultra, c'est une astuce. C'est quand tu es au départ d'une épreuve d'ultra, il faut envie avoir de. Il faut, faut que tu aies envie de manger des kilomètres, en fait.
Ouais.
Il faut pas que tu sois lassé, blasé. Il faut vraiment que tu aies envie de monter sur ton vélo. C'est
Ouais,
hyper important.
ouais. Ouais, et
Hyper
c'est
important.
vrai que de ne pas trop rouler, voire de ne pas rouler du tout les jours précédents. Ça peut aussi, ouais, vraiment faire ce truc-là où, enfin, moi j'étais trop contente de faire du vélo parce que ça faisait une semaine que j'avais pas roulé quasiment, et du coup j'étais là, ouais, je vais enfin aller faire un grand tour, quoi, et rouler comme j'ai
Moi,
envie de rouler.
tu vois, à titre perso, 7 jours avant une épreuve d'ultra, enfin, que ce soit une aventure ou une épreuve d'ultra, je ne touche pas mon vélo, ça
Ouais.
sert à rien.
Ah,
Ça
mais
sert à rien. Tu
complètement.
vas aller faire quoi? Tu vas aller faire 3 jours avant, tu vas aller faire 50 bornes pour te déculpabiliser.
Ouais, mais
Mais
ça c'est un peu comme
le
quand
travail, il est déjà
tu
fait.
révises dans le couloir juste avant de rentrer en interro, quoi. C'est
Exactement. Exactement.
mais ouais, cette récup là, ouais, elle est hyper importante. Après, si on veut s'aider un petit peu, on en avait parlé dans l'épisode sur la récup, mais c'est vrai que le ginseng et la rhodiole, ça renforce vraiment la vitalité, ça permet d'anticiper la récup. Donc ça peut être pas mal de venir se supplémenter. Après, on peut acheter tous les Terragun et les collants de compression et les foam rollers de la Terre et tous les outils du monde. Le meilleur outil du monde, il est gratos et tout le monde peut en bénéficier et il vous fait récupérer comme rien d'autre. Ça s'appelle le sommeil. Et
Exactement.
c'est vraiment, je pense, quand on prépare de l'ultra, et c'est vrai qu'il y a des entraînements qui souvent vont arriver tard, les rythmes sont perturbés et tout. Honnêtement, il faut que le sommeil ce soit non négociable, il faut que ce soit un minimum de 7 heures, 7 à 8 heures par nuit, voilà, pour aider notre cerveau et nos muscles, hein, à favoriser la capacité à apprendre, à mémoriser, à réagir aussi, à prendre des bonnes décisions logiques et rationnelles. Quand on dort bien, on mange mieux. On prend moins de poids aussi, si on est dans cette optique, voilà, de se dire, je prépare de l'ultra, je mange beaucoup et tout. Il n'y a aucun stress, hein, juste faut bien dormir aussi, quoi. Tout va jouer, même pour le système immunitaire, le métabolisme. Enfin, bien dormir, c'est bien performer. Donc ça, s'il y a un truc sur la récup qu'il ne faut pas négliger et qui est top priorité, récup avant d'aller prendre des bains froids et de faire de la cryo, juste dormir.
Ben, je pense que c'est un très beau mot de la fin. Je pense qu'effectivement, dans l'ultra-équilibre, qui était le thème de l'épisode, le sommeil a une part importante dans la récupération. Et une fois que tu as compris ça, je pense que tu as compris beaucoup de choses, mais ça fait partie intégrante. Le sommeil est réparateur. Voilà, très clairement, le sommeil est réparateur. Un grand merci à toi, Camille.
Bah, un grand plaisir, Arnaud, comme toujours.
Et puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Ça marche, à très vite.